Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de Chise 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content pour de vous retrouver cette période des fêtes, cette période de Noël, pour vous présenter le deuxième service de 2025, la traditionnelle revue de l'année. On regardera ce que les gens ont recherché sur Internet, mais surtout ce qui s'est passé dans notre actualité média au Québec, au Canada. En tout cas, pour l'instant, sait-on jamais. On va vous retrouver, Alex Bayergeon, avec vous pour la prochaine heure pour vous refaire visiter 2025. Parce que, comme à chaque année, lorsqu'on regarde à nouveau ce qui s'est passé au courant des 12 derniers mois, on se rend compte que, mon Dieu, il y a toujours ces petits éléments-là qu'on oublie tout le temps. Dans les premiers mois de l'année, surtout, mais on finit tout le temps par se dire « Ah, me semblait, c'était, je pensais pas que c'était cette année, je pensais que c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans. » Ces fameuses phrases qu'on se dit tout le temps. Donc, on regardera, comme à l'habitude, ce que les gens ont recherché au Canada sur les internets. Et encore cette année, puis même plus ça avance, plus qu'on dirait que cette tendance-là va s'en aller, mais les résultats de recherche de l'année, disons que le calendrier québécois existe de moins en moins. Donc, c'est de plus en plus difficile de trouver ce que seulement le Québec a cherché par d'autres années. On avait vraiment une place spécifique pour ce qui avait été recherché au Québec, mais là, malheureusement, ça tend à s'en aller tranquillement pas vite des tendances où, en tout cas, on tourne les coins ronds un petit peu et on fait ça un petit peu plus simpliste. À preuve, la vidéo de cette année, l'année « Year in a Search », l'année en recherche de Google est particulièrement pas bonne. Si par les autres années, j'ai été élogieux de ce segment-là, de faire l'espèce de récapitulatif de l'année en images, en 4 minutes gros maximum, la vidéo de cette année est particulièrement plate et pratiquement pas représentative tant que ça de l'année, des présentations de trucs qui sont pas nécessairement les affaires les plus marquantes de l'année. Donc, un petit peu déçu de ce côté-là, mais et c'est ça qui je me rends compte de plus en plus. T'sais, j'en ai parlé souvent à l'émission aussi, t'sais, le grand défaut, malheureusement, aujourd'hui, de la multiplication des plateformes, la multiplication des moyens de voir certains items, certaines recherches, pas certaines recherches, mais certaines vidéos, certaines émissions, des films, etc., c'est plus ce que c'était. T'sais, si à une autre époque, l'époque de la télévision, que justement, il n'y avait pas cette multiplicité-là des supports, tout le monde regardait la même chose. Tout le monde avait ce tronc commun-là, ces références communes-là pour être capable de se faire des clins d'œil, d'être capable de se rejoindre dans ce tronc commun-là. Et je me rends compte maintenant avec Internet et avec cette multiplicité-là, il n'y en a plus de ce tronc commun-là, même sur Internet. Tu sais, si à une époque, les vidéos de YouTube Rewind, les vidéos où on réunissait les créateurs de YouTube pour faire une espèce de melting pot de justement tout ce qui était la culture populaire de cette année-là, aujourd'hui, ben, ça fait déjà une couple d'années qu'ils ne le font plus, mais aujourd'hui, on dirait que je ne saurais pas c'est qui les créateurs que tout le monde connaît. Tellement c'est rendu diversifié, qu'il y a du contenu extrêmement local, etc. À preuve, on ne connaît pas ceux qui baignent dans cet univers-là les connaissent, mais monsieur, madame, tout le monde auront aucune idée c'est qui Cocotte, c'est qui le Gurki, c'est qui nos vedettes québécoises sur YouTube qui tirent des millions de vues, qui sont invités à cette heure dans des vidéos à l'international, qui vont en France, qui font des trucs avec les créateurs français qu'on ne connaît pas non plus en étant de ce bas-ci. Ou en tout cas, si on est passé un certain âge, on n'a aucune idée qui sont les YouTubers connus en France, au Québec, au Canada, même Canada anglais. J'ai été chanceux d'en nommer deux du Québec, mais XQC, techniquement, il est québécois, mais il est en anglais. Fait que tu sais... Puis il est plus ce Twitcher streamer que YouTuber. Fait que, tu sais, ce tronc commun-là, l'espèce de truc qui fait l'unanimité que tout le monde connaît, ça n'existe plus. Donc, ça devient, ben, probablement c'est à cause de ça aussi que cette vidéo-là n'est pas particulièrement bonne. C'est que vu qu'il n'y a plus de tronc commun, il n'y a plus de truc que tout le monde, autour duquel tout le monde se rassemble. Ou à tout le moins, c'est tellement niché qu'on a l'impression que tout le monde en parle. Mais que pas tant que ça non plus. Tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est même pas dans les cinq films les plus... y es-tu? Même pas. Les K-pop Demon Hunter, le film de Sony qui est sorti sur Netflix seulement. Déjà en partant, on se barre une partie. Quoique c'est vrai, il y a eu une sortie limitée au cinéma malgré tout, mais ça a été le phénomène de l'été ou du printemps, là, je ne sais plus trop, mais je ne suis même pas sûr moi-même quand la date officielle de la sortie, mais les chansons ont énormément voyagé. Tu sais, ça reste un film qui a été vendu sur Netflix parce que pas les créateurs, mais les producteurs ne pensaient pas que les gens allaient autant embarquer là-dedans, que c'est pour ça qu'il y a eu cette sortie un peu en catastrophe au cinéma, parce qu'il aurait fait énormément d'argent, puis à tout le moins, ça aurait probablement pu rembourser, par exemple, les Schtroumpfs qui, eux, n'ont pas particulièrement bien fonctionné au box-office ou n'importe quelle autre production de Sony Pictures depuis Spider-Man. Dans le Spider-Verse, en attendant Spider-Man dans le Spider-Verse, parce qu'on devrait peut-être le voir, si c'est pas l'an prochain. On est-tu rendu en 2027? Parce que je sais que la date a été repoussée, Spider-Verse 3, si je fais la petite recherche rapide. On est rendu à mai 2007, non. Ça, c'est le Spider-Man 3. Mais Beyond the Spider-Verse, on est rendu au 4 juin 2027. Qui reste encore 2 ans, ben un an et demi. Disons, voyons-le comme ça, un an et demi avant la conclusion du dessin animé de Spider-Man et de Miles Morales, que ça a été dans mes coups de cœur de l'année passée. Ou ça fait-tu 2 ans? J'étais en train de le dire, puis j'ai comme un doute. Spider-Man 2, Spider-Verse. 2023! Mon Dieu, ça fait déjà 2 ans. Fait que, voilà. Donc, revenons à 2025. Revenons à ce que les gens ont recherché, ce que les gens voulaient savoir sur les réseaux sociaux, particulièrement au Canada. Les sujets d'actualité les plus recherchés, ben les Blue Jays. Les Blue Jays qui ont presque gagné leur finale, mais que finalement, ça s'est perdu dans les dernières cases de ce match-là. En deuxième position, ben, c'était les résultats de l'élection canadienne. Parce que oui, il y avait des élections ce printemps. Et plus ça avance, plus... En fait, non, il ne manque qu'un seul conservateur ou un seul NPD qui voudrait joindre les rangs de Mark Carney et qui pourrait finalement donner cette majorité tant souhaitée par le gouvernement libéral pour rester majoritaire et s'en tirer jusqu'en 2029, lors de la prochaine élection, au bout de 4 ans. Est-ce qu'on est encore avec des rumeurs de faire des élections au printemps? Peut-être pas. Tout va dépendre également en janvier ou peut-être début février du vote de confiance qu'il y aura sur Pierre Poilievre, parce que les conservateurs devront se prononcer, devront savoir s'ils veulent conserver. Sans faire de mauvais jeu de mots, Pierre Poilievre à la tête du parti, ou si on tombera en campagne à la chefferie, ce qui fera en sorte également que le Parti libéral pourrait avoir un petit break si jamais ben, les conservateurs devaient se choisir un autre chef, ou pour la blague, ils pourraient décider de déclencher des élections alors que les conservateurs devraient choisir un chef dans la panique. En troisième position, c'est ce qui s'est passé en Iran. Tout au long de l'année, bien sûr, les bombardements également qu'il y a eu des Américains dans ce secteur-là. Les feux de LA, les feux de Los Angeles qui ont ravagé, je pense que c'était le nord de Los Angeles. Donc, toutes ces maisons-là, ben, en fait, la grosseur de l'incendie a fait énormément jaser. De notre bord du Canada, on a tenté d'en savoir plus également. Évidemment, l'assassinat de Charlie Kirk en cinquième position, tout aussi problématique qu'il puisse être. En sixième position, le nouveau pape. Le pape américain, le pape Léon XIV. Malheureusement, j'ai dû le chercher parce que j'avais un peu oublié que c'était Léon. Mais parce que j'avais juste Léo, mais c'était en anglais. Léon en français, Léon XIV. Donc, premier pape américain à avoir, à devenir le nouveau pape. Qui est maintenant, ça fait maintenant déjà 7 mois qu'il est en poste. Il avait été choisi en mai 2025. Septième sujet d'actualité le plus recherché, les tarifs. Sur quoi s'appliquent les tarifs? Sur quoi sont rendus les tarifs? Sur quoi les tarifs ont été enlevés et tout autre recherche connexe, devrais-je plutôt dire. Ça a été dans les sujets d'actualité les plus cherchés. Ensuite, c'est la démission de Justin Trudeau, début de l'année. On a parti l'année sur ce pied-là. Avec Trudeau qui remettait officiellement sa démission, qui allait quitter au moment où on allait lui trouver son successeur en étant, bien sûr, Mark Carney. TikTok, le bannissement de TikTok. Est-ce que TikTok allait être banni? On se souviendra que c'était un sujet qui allait, au début de l'année, causer plusieurs maux de tête, peut-être à certains créateurs ou à certains jeunes qui n'auraient plus accès à la plateforme. Mais c'est surtout du côté américain, donc je trouve ça drôle qu'au Canada, on l'ait recherché aussi, quoique Canada anglais est jamais bien loin de faire la recherche sur ce qui se passe du côté américain. Ici, on regarde rapidement le tableau des tendances, c'est ça, c'était au début de l'année, surtout, et c'était majoritairement, c'est ça, les Américains qui faisaient cette recherche-là. Le Canada, un petit peu, malgré tout, on est le troisième pays à l'avoir plus recherché. Peut-être est-ce qu'on s'inquiétait à ce que ce bannissement américain-là soit inclus également du côté canadien, mais rien de tel n'est arrivé. Quoique, en fin d'année, on a quand même l'Australie, eux, qui ont décidé de bloquer les réseaux sociaux pour les adolescents, ou en tout cas une partie des adolescents, c'est 14 ou 16 ans de mémoire, l'âge minimal pour aller sur les réseaux sociaux, et c'est pas une mauvaise chose. En ce moment, sur les réseaux sociaux, peu importe laquelle plateforme, Instagram est peut-être la moins pire, mais tu sais, peu importe quelle plateforme, il se passe plus d'affaires tant que ça pour les jeunes, ou en tout cas plus que du monde qui s'engueule, du monde qui chicane, du monde qui donne leur opinion, et etc. Quoi qu'il y a TikTok, il y en a un peu de ça aussi, mais... Enfin bref, c'est pas une mauvaise chose pour eux. Peut-être que d'autres pays tenteront d'imiter les Australiens. Sait-on jamais. Et finalement, le dixième sujet le plus recherché, c'était le Golfe du Mexique, cette fameuse appellation que voulait donner Donald Trump, qui voulait renommer le Golfe du Mexique pour l'appeler le Golfe d'Amérique à la place, donc que ça devienne son golfe à lui et non pas le Golfe du Mexique. Certaines compagnies ont obtempéré, ont changé le nom Golfe du Mexique pour Golfe de l'Amérique, mais en tant que tel, usuellement, il n'y a personne qui appelle ça le Golfe de l'Amérique. C'est ça, parce que la nomenclature internationale, fait que ça ne se change pas juste parce qu'un pays décide que ça change de nom à l'interne. Plus que ça soit mondial, de un. Et c'est ça. C'est ce qu'on peut peut-être reprocher également à la vidéo de Google avec le passage sur l'intelligence artificielle va être la meilleure affaire qui n'existera pas dans les prochaines années, qui ne risque pas d'arriver non plus. Mettons que c'est en train déjà d'être créé ou à la limite qu'on veuille réglementer le tout, mais évidemment, lorsqu'on va tomber dans les technologies, c'est sûr que les principaux intéressés ne seront pas là non plus pour qu'ils se fassent mettre des bâtons dans les roues. Allons peut-être du côté pop, du côté de la culture. Les films les plus recherchés du côté canadien, on a bien sûr le retour de Happy Gilmore 2, qui était sur Netflix, qui est le film qui a été le plus recherché, où on voulait avoir le plus d'informations, suivi par le film Minecraft avec Jack Black et Jason Momoa, le film Anora qui avait remporté aux Oscars, le nouveau Superman de James Gunn avec David Cronenberg, mais c'est pas tout à fait ça. Cronsworth. Cronsworth? Comment il s'appelle, donc? Le nouveau Superman. qui a été présenté pour repartir l'univers DC de James, avec James Gunn à sa tête cette fois-ci, David Cronenworth. Encore une fois, des noms qu'il faut qu'on commence à apprendre malgré tout. Le film Sinners avec Michael B. Jordan. Weapons, Nosferatu, qui est sur Netflix. Les Thunderbolts, Asterix. Un des seuls Marvel, d'ailleurs, qui est dans cette liste-là de films. On a ralenti la cadence, ça paraît. Mais on repartira le tout l'année prochaine, très certainement bientôt. Même, j'ai comme un doute, c'est quoi les prochains films qui s'en viennent, tellement que ça s'est calmé. Et qu'on essaie de recommencer à faire du bon matériel plutôt que de le faire à la chaîne. 28 années plus tard. Et How to Train a Dragon. Le premier film en prise de vue réelle avec Croque-Mou en 3D. Les shows de télé les plus recherchés, mais ça, ces résultats-là sont sortis avant que Heated Rivalry sorte. Là, fait que c'est pour ça qu'il ne sera pas dans le top de l'année. Quoique, peut-être s'il fait une percée assez significative, peut-être qu'est-ce qu'il va rentrer finalement dans le top 10. Mais pour l'instant, c'est Severance, Squid Game, Adolescence, Ginny and Georgia et White Lotus dans le top 5. The Summer Turned Pretty, ça c'est drôle parce que me semble qu'on n'a pas entendu parler tant que ça. Landman, American Prime Vol, Captain America Brave New World, qui est le film. Et The Pit, qui je pense était sur Apple TV. Alors pourquoi est-ce que Captain America Brave New World est classé comme étant dans les émissions de TV les plus recherchées alors que c'était l'autre film de Marvel? Excellente question. Donc, Google et pas son affaire. Si on va regarder très rapidement également avant d'aller à la première pause, les personnalités qui ont fait énormément jaser du côté canadien, bien sûr, en première position, c'est Mark Carney. On voulait savoir c'était qui. En plus de devenir le nouveau premier ministre, on voulait savoir c'était qui. En particulier, Ed Gein, qui, lui, se trouve à être 10 choses à savoir sur le tueur en série. Entré dans la culture populaire américaine comme l'un des tueurs de la série les plus dérangés et macabres de l'histoire du pays. Il a inspiré Psychose et Massacre à la tronçonneuse. Eh bien... Donc, on l'a... je pense qu'il est mort cette année. Non, il est mort en 57, fait que ça n'a aucun rapport. Donc, on l'a cherché en deuxième position au Canada, suivi par Jimmy Kimmel, avec son bannissement qu'il avait eu à cause de Donald Trump. Kendrick Lamar, et ce qui s'est passé avec Drake, qui plus est avec le Super Bowl. Andy Byron, qui... Andy Byron, le président le président de compagnie qui s'était fait pogner en plein adultère avec une femme qui n'était pas la sienne au concert de Coldplay. C'est un droit de la vidéo qui était devenue virale parce qu'ils ont agi de la pire manière qu'ils pouvaient le faire, c'est-à-dire en étant gênés, en essayant de se cacher et tout ça. Mais que s'ils l'avaient joué cool, on ne l'aurait jamais vu, mais... Malheureusement, ils ont paniqué et lui devra divorcer pour avoir, avoir amené sa conseillère en ressources humaines à un concert de Coldplay. Le meurtrier de Charlie Kirk, Tyler Robinson, qu'on a énormément oublié malgré tout, parce que c'est ça, son procès a eu lieu, il y a eu une première apparition du gars en question à la mi-décembre où il était retourné en cour, où il avait été vu. En tout cas, on l'a amené en cour pour débuter le procès, j'imagine. Ou en tout cas, On l'a fait passer devant le juge du comté de l'Utah, où le juge lui-même a interdit l'accès des caméras en salle d'audience, donc pour ne pas non plus le rendre plus connu qu'il ne l'est déjà malgré tout, même si on oublie son nom relativement rapidement. Fait face à des accusations de meurtre passible de la peine capitale aux États-Unis. Dans ce cas-ci, bien évidemment, on va peut-être tenter de demander la peine de mort. Il me semble que Donald Trump avait dit qu'il pourrait peut-être l'accorder exceptionnellement parce que, ben, c'est ça, Charlie Kirk a aidé malgré tout à faire gagner Donald Trump à la dernière élection. Le rappeur Dave D4VD qui aurait été, qui était au cœur d'une controverse où il aurait peut-être possiblement tué une mineure à tout le moins, ou en tout cas qui aurait été sa blonde, mais pas vraiment. En tout cas, c'est très mystérieux cette histoire-là, mais c'était son char qui était passé au feu. Il y avait dans le coffre la jeune en question, donc. Il y a des enquêtes qui commencent également de ce côté-là. Sinon, Katy Perry a fait énormément jaser au Canada. Et pas nécessairement parce qu'elle a sorti des nouvelles chansons. C'est parce qu'elle est maintenant la nouvelle flamme de Justin Trudeau. Donc, d'une chanteuse à une autre. Hein? On peut dire ça comme ça. Zoran Mamdani, 9e position pour le nouveau maire de New York qui sera officiellement assermenté le 1er janvier. Cette émission-là est diffusée possiblement le 2 janvier aussi, donc qui a été assermenté hier dans le cas de Mamdani, si vous l'écoutez en rappel. Et finalement, Jack Mitzing, qu'est-il devenu, où est-il, que fait-il? On cherche malgré tout des petites infos sur lui, quoique c'était peut-être aussi lors de sa démission où il y a eu un plus gros pic de la recherche de Jack Mitz, ayant été incapable, donc c'est le pic qui était au printemps, ayant été incapable de rallier les troupes derrière lui, même en ayant perdu des sièges dans certaines circonscriptions, dont la sienne. Il avait présenté sa démission le soir même de l'élection du printemps dernier. Je suis en train de dire ça, puis il y avait-tu la soirée même? Il me semble que oui. Donc, voilà pour ça. Pour ce premier segment, on continue de regarder l'actualité de 2025 sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ, tout de suite après cette courte pause. Restez bien branchés pour la revue de 2025, pour le deuxième service de 2025. De retour au deuxième service de 2025, avant de passer à une courte pause pour la deuxième moitié de l'émission, on va déjà débuter ce qui s'est passé en 2025 au Québec, au Canada, dans l'actualité. Beaucoup de dates, beaucoup d'événements, mais allons-y dans l'ordre, ce sera plus simple. L'année a débuté avec le départ de Justin Trudeau, qui annonçait sa démission officiellement comme premier ministre et du Parti libéral du Canada. Des élections sont déclenchées. Une course à la chefferie sera déclenchée quelques jours plus tard, mais le poste de premier ministre est à prendre. Recrudescence de rougéole au Québec. On a réussi à ramener une maladie qui était presque morte grâce à la non-vaccination, ou en tout cas le manque de vaccination est efficace. C'était en partie au début de l'année 2025, quoique ça avait commencé en décembre 2024. 4 cas de rougeole sont confirmés dans la province, une nouvelle éclosion qui a commencé au début de l'hiver dernier. À la mi-janvier, on avait notamment... C'est pas nécessairement un lien direct, mais mettons que ça a aidé à la décision, parce que Simon-Olivier Fecteau, dorénavant ex-réalisateur du Bye Bye, excusait le salut d'Elon Musk qui s'apparentait au salut nazi qu'il avait fait lors des célébrations, ou en tout cas lors des discours qui étaient prononcés en vue de depuis la sermentation de Donald Trump. Mais en janvier, on se souviendra qu'il y avait eu un grand rassemblement à l'honneur de Donald Trump, et Elon Musk avait pris parole et avait fait des gestes qui pouvaient s'apparenter à un salut nazi, même si le principal intéressé disait que ce n'était pas le cas. Mais on s'est posé la question, et Simon-Olivier Fecteau trouvait que c'était bien correct, que c'était pas ça qu'il voulait faire, parce que Elon Musk est un homme extrêmement intelligent et tout ça. Faudra attendre quelques semaines, mais Simon-Olivier Fecteau perdra le bye-bye, ou en tout cas, dira qu'il aura d'autres choses à faire par la suite. On en avait parlé à l'émission, la compagnie Amazon qui devait ouvrir des entrepôts du côté de Montréal a finalement décidé de sacrer son camp après avoir obtenu du financement de Québec, la compagnie Amazon, parce que ces compagnies voulaient se syndiquer et comme Amazon n'est pas particulièrement fort sur les conditions de travail qui se peuvent, ou en tout cas les conditions de travail pas au détriment de ses employés, a décidé de juste fermer l'entrepôt, même s'il était fini de construire et que c'est un énorme édifice. Ben c'est ça, ils sont partis et ils ouvriront à la place en Ontario. Février, on l'oublie, mais c'est cette année que c'est arrivé. Denis Coderre se faisait montrer la porte avant même qu'il ait pu commencer à faire la campagne électorale libérale, puisque sa candidature était rejetée le 7 février, donc c'était pour lui maintenant impossible de se présenter. Lui criait à la censure et qu'on l'empêchait de pouvoir devenir chef du Parti libéral. Finalement, ben, on apprendra qu'il était incapable de payer ses comptes à temps lui aussi. Un autre, diront certains. Mais voilà, donc le début de la fin pour Denis Coderre qui est tombé tranquillement, pas vite, mais pas assez vite peut-être, est tombé tranquillement de son piédestal en étant le sauveur du Parti libéral, mais que finalement, ça aurait été le contraire. Le 17, il y a eu cet accident spectaculaire d'un petit avion qui s'est renversé sur le tarmac à Toronto. Plus de peur que de mal, mais... les images étaient quand même saisissantes. Il y avait quelques personnes qui avaient pu filmer leur sortie d'avion alors que tout était renversé à cause des grands vents qu'il y avait eu à l'aéroport Pearson, de mémoire, du côté de Toronto. Donc, ce vol Delta plus de peur que de mal, tant mieux de ce côté-là. Et du côté québécois, on avait la démission d'Éric Kerr à la fin février, 27 février officiellement, qui quittait ses tâches de chien de garde et de grand protecteur du cyber numérique au gouvernement de la CAQ, puisque sa clique avait été un échec lamentable. Il tenait à ne pas prendre la part de la responsabilité qui lui revenait en disant que rien n'était de sa faute. Et puis, il annonçait avec fracas qu'il devait démissionner de son poste de ministre de la cybersécurité et du numérique. Lui succédera notamment Gilles Bélanger. Le lendemain, ce sera annoncé que c'est lui qui prendra la relève. En même temps, c'était les élections générales en Ontario, un peu hâtives, parce que Doug Ford surfait sur la vague d'avoir été le Capitaine Canada, alors que Justin, de son côté, était en débâcle. Donc, ce statut pour Rob Ford lui aurait été favorable, plus que son gouvernement aura été renvoyé majoritaire du côté du Parlement ontarien. Donc, Paris réussit dans son cas. Et sinon, elle avait quand même eu le temps de déposer un projet. Bon, Maïté Blanchette-Vézina avait le temps de déposer un projet en février en tant que ministre des Ressources naturelles et des forêts. Il faudra attendre quelques semaines, voire quelques mois, puisqu'il y a eu un petit remaniement du côté de Québec. Remaniement ministériel qui excluait Maïté Blanchette-Vézina de son poste des Ressources naturelles en septembre. Et qui faisait également en sorte qu'elle ajoutait son nom à la longue liste des députés démissionnaires de la Coalition Avenir Québec cette année. Donc, cette majorité à 90 qui est rendue à 87, je pense, parce que elle sera deviendrait probablement la nouvelle Claire Samson avec cette annonce qui avait eu lieu avec son passage devant le Congrès du Parti conservateur, de même que Christian Dubé, qui lui aussi a claqué la porte après s'être fait bypasser, comme on dit si bien en français, par François Legault dans les négociations avec les médecins. Continue de dire qu'il a bien fait malgré tout, même si les principaux points auxquels il tenait mordicus ont tous été renversés par ce même François Legault qui tenais à avoir des bonnes nouvelles et à avoir enfin raison sur quelque chose. Mais voilà, ça a été aux dépens de Christian Dubé, qui termine au minimum en tant que député indépendant, ce qu'on peut lui rendre, mais qui ne garantit, ben, qui, on savait déjà, ne reviendrait pas à la prochaine campagne, mais qui au moins ne démissionne pas complètement du gouvernement pour devenir député indépendant à tout le moins, ou du moins juste pour le moment, parce que rien n'indique non plus qu'il va démissionner d'ici les prochaines élections pour déclencher une autre élection partielle, pour déclencher d'autres frais aux contribuables, pour déclencher une partielle qui va faire en sorte qu'un député pourrait peut-être même pas siéger. vu que son élection arriverait à peu près en juin, il y aurait peut-être même pas le temps de rentrer dans le bureau, que ça serait déjà les élections qui seraient déclenchées pour l'automne. Fin de courte pause, au retour, la suite de ce qui s'est passé au Québec et au Canada sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ pour la revue de l'année, pour le deuxième service de 2025. De retour au deuxième service de 2025. On est rendu déjà au mois de mars. François Legault annonce officiellement une enquête publique concernant le scandale de Saclic, les débuts de la plateforme numérique qui ont été particulièrement laborieux, voire catastrophiques. Il laissera place à cette commission d'enquête qui ne manquera pas de rebondissements finalement, plutôt qu'on pensait que ça allait être un peu plus plate. Ben non, finalement, il s'est vraiment passé quelque chose. Donc, c'était en mars. Sinon, le 9 mars également, c'est à ce moment-là que Mark Carney était élu le nouveau chef du Parti libéral. Il sera assermenté 5 jours plus tard pour devenir le nouveau premier ministre par intérim du Canada, avant de remporter cette élection, bien sûr, un mois et demi plus tard en avril, pour rester en mars. Officiellement, Simon-Olivier Fecteau annonçait son retour, qu'il quittait le bye-bye le 12. Stephen Guilbeault devient lieutenant du Québec dans le dévoilement du nouveau cabinet du premier ministre du Canada, Mark Carney, pour une courte période. On pourra y revenir. Dans les élections municipales, Luc Rabouin succédait finalement à Valérie Plante pour pouvoir devenir le nouveau maire de Montréal, chose qui ne se produira pas non plus. Il y a une première partielle qui a lieu du côté de Terrebonne pour succéder à Pierre Fitzgibbon qui, étonnamment, lui aussi avait lâché en décembre l'année passée, c'est vrai. Comme Christian Dubé, lui aussi lâche dans la période des fêtes. Ben, c'est finalement le Parti québécois qui l'emportera avec Catherine Gentilcore qui deviendra la députée de Terrebonne. Une première femme à finalement se joindre à l'équipe du Parti québécois cette fois-là. Éric Lefebvre, du côté du provincial à ce moment-là, décide de démissionner de Artabasca pour tenter sa chance dans Richmond-Artabasca au fédéral, en pensant que Pierre Poilievre avait toujours le vent dans les voiles et qu'il deviendrait ministre conservateur fédéral, mais il y aura une mauvaise surprise qui l'attendra le mois suivant. Dans les autres démissions, Gabriel Nadeau-Dubois lui-même quittera la chefferie de Québec solidaire et quittera également la vie politique tout court au terme de la prochaine élection générale. Donc peut-être deviendra-t-il lui aussi un mordu de Radio-Canada pour la prochaine saison, sait-on jamais. Les élections sont officiellement déclenchées 3 jours plus tard, le 23 mars, pour un scrutin le 28 avril suivant. La campagne la plus courte de l'histoire des élections canadiennes. Jeannette Bertrand s'entend. Peut-être avez-vous vu ça passer un petit peu le 25 mars dernier, mais c'est ça, Jeannette a eu 100 ans. voilà, dans ce qui s'est passé pour ce mois-là. Avril, surprise, on déterre Sam Ahmad des Boulamites parce qu'il affrontera officiellement Bruno Marchand et qu'on croit qu'il aura des chances de remporter les élections municipales. Les sondages sont de son côté, à tout le moins, et ce sera un gros pétard mouillé, comme on le découvrira, rendu en novembre, alors qu'il terminera troisième avec aucune de ses candidatures de son parti ni son siège ne sera remporté par le principal intéressé. Comme je le disais officiellement, le 28 avril, Mark Carney remporte son pari avec 168 libéraux qui formeront le gouvernement minoritaire de Mark Carney. Et malgré la hausse d'appui qui fait en sorte que 144 conservateurs franchiront les portes. Pierre Poilievre n'est pas élu dans sa circonscription et fera démissionner un de ses candidats de l'Ouest en Alberta, où, qui avait obtenu le meilleur résultat à travers le Canada pour qu'il puisse finalement obtenir un siège à l'Assemblée. Ça sera pendant l'été. Le NPD tombe à 7 députés seulement, donc n'est plus un parti reconnu. Et seule Elisabeth May ferme la marche pour le Parti vert. 23 bloquistes sont élus de leur côté. En mai, le roi Charles est avec nous. Il vient lire le discours du trône de Mark Carney pour montrer aux Américains que le roi est avec nous autres. Donc, Charles III et Camilla viennent les 26 et 27 mai au trône, pour le discours du trône. Donc, ce n'est pas Mary Simons qui va massacrer le bout de français, puisque Charles III, lui, parle français et lira convenablement cette partie-là du discours. Donc, les intentions de vote. Les intentions qu'auront Pablo Rodriguez lors de la prochaine session parlementaire. Le 5 mai, et ça c'est drôle, Marois Risky annonce officiellement qu'elle appuie Pablo Rodriguez dans la course à la chefferie. C'était un appui très attendu parce que Marois Risky est encore la candidate préférée du Parti libéral du Québec comme étant la plus vocale, mais en étant la plus appréciée de la formation. Donc, c'est un vote qui était important pour Pablo, puisqu'il l'emportera le mois suivant. 14 mai, Alex Boissonneau, ancien animateur de Ici Première Québec, devient officiellement le candidat pour le Parti québécois dans la future élection d'Arthabasca, lorsqu'elle sera prononcée un moment donné. Éric Duhaime, quant à lui, boude dans son coin parce qu'il n'aura pas le champ libre pour se faire élire gratuitement, parce qu'il souhaitait que les partis d'opposition lui laissent le champ libre, donc il ne présente pas de candidat pour qu'enfin il puisse être légitime à l'Assemblée nationale, mais il en sera décidé autrement, puisqu'un candidat vedette réussit à s'inscrire dans la course en étant Alex Boissonneau pour le Parti québécois. Juin, déjà. Le mois débutait avec la décision finale de la compagnie de la Baie-du-Thon de fermer boutique, littéralement. Après 355 ans d'existence, tous les magasins de la Baie-du-Thon encore ouverts sont officiellement en vente, sont fermés au courant des jours qui suivent. Donc voilà, fin d'une institution canadienne des 355 dernières années, rien que ça. Le 14 juin, c'est officiel, Pablo Rodriguez devient le nouveau chef du Parti libéral du Québec avec à peine 52 % des appuis des militants contre les 48 qui sont pour Charles Milliard lors du deuxième tour de scrutin qui a été nécessaire, mais ça a été quand même assez rapide rapide. Ça a pris quand même un certain temps, mais ça a quand même été assez rapide avant que la décision soit rendue. Du 15 au 17 juin, c'était le sommet du G7. Kanawaskis en Alberta, où Donald Trump était venu passer 2 heures avant de repartir déjà. Superbe décor de Kanawaskis, mais voilà, où il n'y a pas eu vraiment grand-chose qui s'est décidé là non plus. Au même moment, du côté québécois et de l'Ontario, il y avait la disparition de la petite fille de 3 ans que sa mère avait abandonnée en affirmant ne plus se souvenir où elle l'avait laissée. C'était pendant 4 jours que cette chasse à... chasse à l'homme, mais pas tout à fait, mais c'est plutôt cette volonté de retrouver la petite fille manquante s'est finalement soldée dans le positif. Donc, on l'avait retrouvée 4 jours plus tard, le 18 juin, alors qu'elle était réfugiée dans une bâtisse abandonnée, il me semble de mémoire, ou dans une petite ferme abandonnée, où techniquement sa mère y avait dit de rester là. Elle qui était, en crise psychotique, mais je pense pas que ça avait été officialisé de cette manière-là, mais en tout cas, elle était en grande détresse, certainement. Et c'est ça, elle avait été retrouvée 4 jours plus tard, au moins ça s'est terminé de manière positive pour cette histoire-là. On annonçait à la fin juin, 25 juin, que Denis Villeneuve serait le nouveau réalisateur du prochain James Bond. Pas d'acteur encore annoncé pour le coup, mais si on voulait faire un James Bond québécois, le nom d'Éric Bruno revenait à quelques occasions. Mais sinon, à suivre pour ce prochain James Bond-là. Très rapidement, en juillet, ben, il y a eu notamment les funérailles nationales de Serge Fiori à la Place des Arts de Montréal le 15 juillet, donc pour le départ de l'auteur, compositeur, interprète notamment d'Harmonium, mais aussi plusieurs autres œuvres et de sa carrière solo. On fait une courte pause au retour, on clenche la fin de l'année 2025 de août à décembre. Restez bien branchés sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. C'est le deuxième service de 2025 encore pour les 10-15 prochaines minutes. De retour au deuxième service de 2025 pour le dernier blitz de la grande conclusion de cette revue de ce qui s'est passé tout au courant de l'année, littéralement. On était rendu en août. Le 11 août avait lieu officiellement la deuxième partielle que cette fois qui était toujours remportée par le Parti québécois. Donc, on performe dans les partielles dorénavant. Et c'est Alex Boissonneau qui l'emporte face à Éric Duhaime avec plus de 4000 voix d'avance. Donc, le tout n'était pas complètement serré. Une autre claque au visage d'Éric Duhaime qui devra se contenter d'aller fouiller dans les 10 députés indépendants maintenant, avec Christian Dubé qui a annoncé, comme je le disais tout à l'heure, son départ enfin à la mi-décembre. Donc, Éric Duhaime devra encore se rabattre sur les restants parce que c'est pas non plus à Chicoutimi qui va l'emporter l'an prochain lorsqu'il y aura une autre partielle qui sera déclenchée avec le départ notamment d'André Laforêt qui quitte ses fonctions début septembre en tant que ministre des Affaires municipales également. Elle se présente à la course à la mairie. Des erreurs surviennent d'ailleurs le soir de l'élection qui la donnaient gagnante, mais que lorsque les résultats finaux sont entrés, finalement, elle avait perdu. Malheureusement pour elle, donc elle se retrouve finalement sans emploi au terme de la première semaine de novembre pour avoir manqué son pari, elle aussi, en changeant de palier de gouvernement. 22 août, Télétoon, ou plutôt Corus, propriétaire de Télétoon, annonce officiellement qu'ils ne doubleront plus la série des Simpsons qui est diffusée sur les ondes francophones depuis plus de 35 ans. Elle retire d'ailleurs à peu près toutes les émissions de sa grille horaire de nuit, telles que Family Guy, American Dad, qui étaient également doublées au Québec, probablement faute d'argent, mais ça fait également en sorte que l'avenir est incertain pour la série. Bien qu'elle continue du côté américain, il n'y a pas personne qui s'est encore manifesté pour récupérer le doublage québécois, pour payer pour le doublage québécois à tout le moins, et pas de nouvelles non plus du côté de Disney+, qui de toute façon n'est pas particulièrement enclin à faire des doublages francophones québécois lorsqu'ils ne sont pas forcés de le faire parce que le film sort en salle ou pas. 2 septembre, gouvernement Legault met officiellement fin à l'entente avec Northvolt concernant la construction d'une usine de cellules à batterie à Saint-Basile-le-Grand. Donc, après les millions de dollars investis, c'est ça, on tire la plug, littéralement, parce que, on a misé sur le mauvais cheval et on a mis tous nos œufs dans le même panier, et bien c'est ça, on se retrouve avec rien parce que le ministre économique, qu'est François Legault, comme ils le disent eux-mêmes, à la CAQ, a raté encore une fois son pari et ça fait en sorte que sa crédibilité pique encore un petit peu plus du nez. 4 septembre, j'ai dit tout à l'heure, André Laforêt quittait ses fonctions pour se présenter à la mairie de Saguenay qu'elle ne remportera pas. Le lendemain, c'est Pierre Dufour, député d'Abitibi-S, qui est exclu de la coalition Avenir Québec pour avoir osé parler un petit peu contre son parti. Donc, il est chassé de la CAQ officiellement pour avoir défié l'autorité du chef. On pensait qu'il s'en irait à la mairie de Val-d'Or, mais finalement, il n'en était pas question non plus dans son cas. Dans ce remaniement ministériel qui surviendra par la suite, avec le départ d'André Laforêt notamment, François Legault procède à un remaniement ministériel, enlève des mains de Geneviève Guilbeault le transport pour l'envoyer aux affaires municipales. Bernard Drainville se fait tasser, voire kicker de l'éducation pour devenir le ministre de l'Environnement. Rien que ça. Jonathan Julien, lui, est promu au transport et France-Hélène Duranceau est appelée Cruella pour devenir la nouvelle présidente du Conseil du Trésor, alors que Sonia Lebel, elle, devient la nouvelle ministre de l'Éducation. Fâchée d'avoir été tassée, Maïté Blanchette-Vézina claque aussi la porte de la Coalition Avenir Québec avant d'attendre quelques semaines pour annoncer ses accointances avec Éric Duhaime. 9 octobre, autre controverse à la CAQ, Simon Jolin-Barrette dépose le projet de loi 1. Puisque le Parlement est maintenant réouvert après la prorogation du Parlement et veut changer l'entièreté des règles à travers, ou en tout cas beaucoup de règles du gouvernement québécois. Et évidemment, on monte aux barricades parce que beaucoup de choses sont au travers de ça et sont mal faites. 24 octobre, Québec adopte une loi spéciale obligeant les médecins à cesser les moyens de pression en leur imposant une nouvelle forme de rémunération. Projet de loi qui, bien sûr, créera la panique et créera, bien sûr, le départ de Christian Dubé en décembre, 2 mois plus tard. Lionel Carman démissionne lui aussi de la Coalition Avenir Québec pour siéger comme indépendant parce que sa femme et sa fille sont des médecins affectés par les décisions de son gouvernement et il a eu le choix entre sa famille et sa famille personnelle et sa famille politique. Voilà le lien que je voulais faire. Et c'est ça, la famille personnelle a gagné à ce moment-là parce qu'il ne pouvait pas nécessairement se présenter devant sa femme et sa fille en disant « Oui, on a à cœur vos intérêts, ma femme et ma fille. » En novembre, officiellement, c'est les élections municipales au Québec complet, ou en tout cas dans la moitié du Québec, puisque les autres ont tous été élus par acclamation. Soraya Martinez-Ferrada devient la nouvelle mairesse de Montréal de l'ancienne équipe de Nicodère. Donc, c'est un changement de gouvernement qui s'opère à la ville de Montréal, tandis que Bruno Marchand, auquel on pensait il allait mordre la poussière à cause de sa mamade, ben finalement, il est réélu majoritaire dans presque tout Québec, à l'exception de trois arrondissements, je devrais plutôt dire, qui sont en faveur de Stéphane Lachance, qui est pratiquement tout le temps absent depuis ce temps-là du conseil municipal. Mais bon, hein, c'est ça qui arrive avec ce gars-là. Et voilà, donc Bruno Marchand remporte son pari en devenant le maire de Québec, et ça de manière majoritaire dans son rassemblement. Stephen Blainey, du côté de Lévis, remporte son pari en succédant à Gilles Lehouillier avec son nouveau parti. Et du côté de Sherbrooke, c'est pari remporté dans le cas de Marie-Claude Bibeau, qui devient la nouvelle mairesse de Sherbrooke, faisant ainsi mordre à la poussière aux deux partis de la ville de Sherbrooke qui, eux, peinent à faire élire presque aucun candidat. Dans le cas de Sherbrooke Citoyen, on a quand même 3 qui survivent, mais dans le cas de Vision Action Sherbrooke, leur unique député, claque la porte, elle également, pour devenir indépendante. Donc, Guillaume Brien se retrouve avec rien au final. 4 novembre, François Legault fait démissionner Isabelle Poulet du caucus caquiste pour avoir jasé avec des libéraux. Peut-être pas nécessairement pour les joindre, mais en tout cas pour jaser avec la visite ou avec les oppositions. Et ça n'a pas plu à François Legault, donc elle est officiellement exclue. Elle avec. Sol Zanetti devient le nouveau co-porte-parole de Québec solidaire. Et Marois Risky, elle, est choisie pour devenir première ministre si jamais dans un monde qu'on n'imagine pas, Québec solidaire remportait les élections. Ce serait Marois qui serait choisie devant Sol pour devenir la première ministre. Le lendemain, 9 novembre, Lou-Adrienne Cassidy remporte pratiquement tous les trophées dans lesquels elle avait une nomination au Gala de la Disque. Gala principal dans ce cas-ci, mais au gala Ordonne également. Donc vraiment, elle est l'artiste du 47e gala, ni plus ni moins. Pierre Lapointe, pour sa part, repart avec le trophée de l'artiste masculin. Les deux frères, le groupe de l'année et la nouvelle révélation est accordée à Billy Dupage. Lou-Adrienne qui remporte également artiste féminine de l'année aux côtés de Pierre Lapointe. Le 18 novembre, Pablo Rodriguez suspend officiellement la députée qui l'avait appuyée, Marois Risky, du caucus libéral, puisqu'elle avait mis la chef de cabinet à la porte sans en parler à Pablo, Geneviève Hinze, pour des trucs un peu louches. Et il faudra attendre un mois plus tard, jour pour jour, le 18 décembre, pour avoir officiellement la démission de Pablo Rodriguez parce qu'il était devenu une distraction malgré qu'il ait annoncé qu'il était un fighter et qu'il allait rester. C'est ça. Il s'est fait renverser par lui. Il s'est fait renverser parce que c'est ça. C'était louche du financement au Parti libéral, encore une fois. Quelques jours plus tard, le 22 novembre, c'est Vincent Marissal qui lui aussi claque la porte parce qu'il haït tout le monde du côté caquiste et que le Parti québécois est la véritable alternative. Donc, lèche les bottes un petit peu de Paul Saint-Pierre Plamondon pour qu'il soit choisi comme député, comme candidat dans Rosemont, mais ce sera le risque et péril. La Banque Laurentienne, autre institution canadienne, ferme partiellement ses portes puisque la banque Fairstone les rachète au coût de 1,9 milliards de dollars dans la transaction de la Banque nationale fait aussi l'acquisition des portefeuilles et des services bancaires aux particuliers, tandis que Fairstone, elle s'occupera des entreprises. Donc, c'est terminé pour une autre institution québécoise, même la Banque Laurentienne, si je ne me trompe pas. Création 1846, la Banque d'épargne de la cité du district de Montréal, fondée par Monseigneur Ignace Bourget en 1846, n'est plus. Le 10 décembre, l'unité permanente anticorruption de l'UPAC ouvre officiellement une enquête criminelle sur le Parti libéral avec la dernière campagne à la chefferie où on apprend que peut-être des petits brownies ont été échangés pour essayer de faire élire Pablo, ou en tout cas d'être de son bord plus qu'il ne le faut. Et ben voilà, l'UPAC enquête officiellement là-dedans. On apprendra notamment qu'il y a eu un souper en faveur de Pablo au travers de tout ça qui se remettait des petites enveloppes brunes comme à la belle époque. Et on termine le 11 décembre avec en plus le départ de Pablo la semaine suivante, le 17-18. Mais le 11 décembre, c'est la Fédération des médecins omnipraticiens qui conclut finalement une entente qui aura également raison de Christian Dubé qui annoncera sa démission. C'est vrai, qui annoncera sa démission lui aussi après la conférence de presse de Pablo Rodriguez. Le matin, c'était Christian Dubé qui démissionnait en après-midi. Quelques disparus au travers de la colonie artistique. On y retrouve notamment Julien Poulain, le 4 janvier, au début de l'année. Kimi Rocheskaya, quelques jours plus tard, le 12 janvier, qui est également décédé. Le compositeur Stéphane Venn, le 17 janvier, qui est parti lui aussi. Du côté de l'Acadie, la meilleure représentante de l'Acadie, Antonine Maillet, est décédée le 17 février. En avril, le scénariste, écrivain, dramaturge, auteur, journaliste, parolier, historien, Jean-Claude Germain, est décédé, lui, le 24 avril. Si on continue cette liste-là un petit peu, Juliette Powell, c'est vrai, animatrice, notamment à Musique Plus, mannequin, auteur, est décédée, elle, le 3 juin. L'ancien député libéral et astronaute, Marc Garneau, lui, le lendemain, le 4 juin. Restons dans l'été. Victor Lévy-Beaulieu, écrivain, dramaturge, éditeur, lui est décédé le 9 juin. Il y a eu cette petite controverse-là également avec le fait qu'on ne faisait pas de funérailles nationales à Victor Lévy-Beaulieu, mais c'est qu'on apprenait deux semaines plus tard que Serge Fiori, lui décédait le 24 juin, journée de la fête nationale. Donc, disons que les chansons d'harmonium ont résonné un petit peu plus fort cette Saint-Jean-ci. Puis je pense qu'on l'avait appris même dans l'après-midi. Je pense, oui, on avait le kiosque de CFAQ sur la Wellington pour la Saint-Jean, puis on l'a appris dans l'après-midi que Serge Fiori était décédé. Fait que c'était particulier. Pierre Foglia, chroniqueur, journaliste du côté de la presse, notamment la presse, est décédé, lui, le 29 juillet. Si on descend la liste toujours un petit peu. Le sociologue Guy Richer, lui qui est décédé le 3 septembre, tout juste à la fin de l'été. Quelques jours plus tard, c'était René Aumirois, homme de communication, journaliste, homme de radio, qui lui est décédé le 14 septembre. Il avait réussi tout de même à faire où il avait enregistré une dernière émission, je me souviens plus trop, où on avait réussi à lui faire une dernière émission, mais dans les dernières semaines, il y avait un problème de voix, problème de gorge. Fait que, et c'est ça qui est ironique. C'est tout le temps des affaires-là, hein, des chanteurs qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, ou des animateurs journalistes, du monde des communications comme ça, qui ont de la difficulté à parler en fin de carrière, de vie comme ça. C'est toujours particulier. Lise Bacon, femme politique, est décédée, elle, le 29 octobre. Pierre Dufault, le journaliste sportif, le 31 octobre. Et finalement, celle que j'ai malheureusement omis dans mes deux dernières émissions, mais à qui je voulais aussi rendre hommage, c'est Béatrice Picard, qui est décédée le 9 décembre. Parce que oui, c'est la voix de Marge Simpson jusqu'en 2023, avant que Chantal Barry prenne la relève, mais c'est surtout une femme de théâtre, une femme de télévision, de télé-théâtre, de radio-théâtre, d'un peu de tout. C'est Le Survenant, c'est Symphorien, c'est Cré-Basile, c'est la mère de Sylvie dans Un gars, une fille. Moi, ironiquement, je l'ai connue dans Un gars, une fille avant de la connaître dans Les Simpsons. Virginie était là-dedans aussi. Idole instantanée, on l'avait vu là. Ma tante Aline, plus récemment. Puis le court-métrage qui s'était rendu jusqu'aux Oscars. Suzanne et Chantal. Marguerite, pardon. Marguerite qui s'était rendue aux Oscars, mais elle avait fait aussi un court-métrage, Suzanne et Chantal, avec Anne-Marie Cadieux. Et l'entrevue qu'elle a donnée, notamment à Daniel Ouimet à Télé-Québec, avant de partir, qui faisait un peu le portrait de sa vie et qu'elle disait « Souvenez-vous de moi, parce que moi, je vais me souvenir de vous. » Je trouvais quelque chose comme ça, mais je trouvais que c'était une belle phrase pour terminer cette entrevue-là. Et c'est là-dessus que ça se termine pour cette revue de l'année de 2025, du deuxième service de 2025, ici sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. On se donne rendez-vous l'an prochain, en janvier, pour une nouvelle édition du deuxième service, très exactement le 9 janvier. On reviendra sur le bye-bye, sur Infoman et sur la grande finale de Heated Rivalry. Parce que, comme je le disais dans la dernière émission régulière, c'est probablement une des meilleures émissions des 10-15 dernières années. Sans rire, c'est tellement puissant comme émission. Mais j'arrête, je repars pas là-dessus tout de suite. On se donne rendez-vous l'année prochaine, 9 janvier, pour une nouvelle édition du deuxième service régulière. À l'année prochaine. Salut.